Chapitre 3. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Voyons d'abord ce qu'était cette ville de Sardes, en quelques mots. Il y a là un fait assez curieux. Sardes, et qui était à ce moment-là déjà une ancienne capitale, l'ancienne capitale de la Lydie, et qui avait été célèbre dans l'Antiquité. Elle avait notamment été célèbre pour avoir été la patrie d'un homme dont nous connaissons le nom, sans savoir toujours ce qu'il était, c'est Crésus. Elle était la patrie de Crésus. Et alors, le fait curieux, c'est que cette ville était devenue complètement oubliée. Elle était dans la situation d'une espèce de musée avec des ruines, beaucoup de ruines. Et non seulement cette ville était la patrie de Crésus, mais ce qui s'accorde avec cela, c'est qu'elle était arrosée par le Pactole. Pactolos, en grec, qui est devenu maintenant une toute petite localité, Bagouli, en Turquie. Mais le Pactole était cette rivière qui charriait des paillettes d'or. Elle était située à environ 50 kilomètres au sud de Thyatire. À l'époque moderne, donc, maintenant, il n'y a plus que toujours des ruines, un hameau de bergers. La cité, déjà, au moment de la lettre, était donc en voie de dépérissement. Alors, c'est une chose qui est également très remarquable dans cette lettre, c'est que l'Église ressemblait à la cité. La cité était en voie de dépérissement, et l'Église également. L'Église, tout comme la ville, avait un passé et qui lui valait une certaine réputation de vie, alors qu'en réalité, cette église était morte devant le Seigneur. C'est quelque chose de terrible. Le Seigneur qui dit « Je connais tes sœurs, je connais ». Il pèse toutes choses, il voit toutes choses, selon leur vérité, selon la véritable qualité de chacune de ces choses, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Rien n'échappe au Seigneur qui voit tout jusqu'au fond des cœurs et qui porte la lumière de Dieu en tout point. Le Seigneur connaît même l'appréciation qui subsiste portée extérieurement sur cette église. Tu passes pour être vivant. Il y a encore en ta faveur cette rumeur, cette réputation. Ah, l'église de Sardes, oui, c'est une église vivante. alors que tu es mort. Tu es mort, là est la réalité. La réalité n'est pas dans l'apparence, dans la réputation, mais elle est dans la vue du Seigneur. C'est la réalité cachée et vue par le Seigneur. Arrêtons-nous une simple petite minute sur ce point, que ce soit que ça nous concerne personnellement ou que ce soit pour l'Église, que ce soit concernant la famille, par exemple. Eh bien, pensons à ceci, que la réalité, c'est ce que voit le Seigneur. C'est ce que voit le Seigneur. C'est pas ce que nous pensons, c'est pas ce que nous croyons, ce n'est pas ce qu'on dit extérieurement, c'est ce que voit le Seigneur. Le Seigneur qui sonde les cœurs et les reins, c'est cela qui importe. C'est très simple, ce que nous disons là, excessivement simple. Encore est-il qu'il faut en tirer une leçon d'ordre pratique, c'est-à-dire fixer notre pensée ou chercher par foi, par prière, à savoir ce que pense le Seigneur de nous, de notre action, de nos œuvres, de notre foi. Examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi, mais il faut s'examiner en ayant recours à la vue du Seigneur sur soi. C'est ça qui importe. Malheureusement, on voit trop de membres des églises qui ont leur opinion sur eux-mêmes. Mais cette opinion, elle est vaine, elle ne vaut rien. Il ne s'agit pas d'une opinion qu'on a sur soi. Je ne parle pas sur l'Église, mais sur soi, maintenant, ça ne vaut rien. Il faut simplement connaître la réalité et pour cela dire comme le psalmiste, « Seigneur, sonde mon cœur et mes reins et fais-moi connaître mon péché. » Pourquoi l'Église de Sardes jouissait-elle de cette réputation encore d'être vivante? Eh bien, il y avait sans doute encore du monde dans les réunions de cette Église, et puis en tout cas, cette Église devait sa réputation à un passé glorieux. Elle était née à un certain moment, elle avait eu ses débuts, et on peut presque dire que d'une façon générale, les débuts d'une église sont glorieux. Les débuts d'une église sont flambants. Mais je le dis sans aucun esprit critique, c'est une constatation. Moi-même, j'ai assisté à la naissance d'une église qui a bien grandi, qui a beaucoup grandi, et les débuts étaient magnifiques. Il nous paraissait même extrêmement facile. Tout allait bien. Tous les cœurs étaient véritablement attendris, remplis de foi, de ferveur. C'était magnifique. Mais au bout d'un temps, on a senti la nécessité de garder, de durer. La plus grande difficulté dans l'Église, c'est de durer. De durer. C'est très beau de naître. Magnifique. Quand un enfant naît, tout le monde est heureux. C'est la fête. Et puis l'enfant, il est superbe, il est joli. Bon, mais après, des difficultés vont se présenter, des petites maladies. Et puis quand il grandira, n'est-ce pas quel penchant présentera-t-il? Vous voyez, il y a un tas de difficultés qui naissent après. Mais il en est ainsi de l'Église. La difficulté pour l'Église ou pour chacun de ses membres, c'est de durer. C'est pourquoi, chers amis, voyez-vous, moi je conserve un certain désaccord. Un certain désaccord avec cette propension que nous avons du côté des choses qui commencent. D'ailleurs, on le voit dans l'Écriture, ça. On aimait beaucoup les choses qui commencent, les commencements. C'est glorieux, les commencements. Et alors, nous parlons beaucoup de conversion. Nous avons des témoignages de conversion. Alors là, tout est magnifique, tout se transforme, tout s'embellit, tout change. C'est merveilleux, c'est une éclosion de vie. C'est splendide. Alors, moi aussi, je m'intéresse à ça. Mais, chers amis, il faudrait que nous parlions aussi de ce qui advient chez ceux qui se sont convertis ainsi, qui sont nés de nouveau, et qu'on a trouvé tout au début de leur vie chrétienne, là, remplis d'ardeur, de foi, de ce premier amour merveilleux. Oui, notre frère nous parlait de quelqu'un, là, hier, je crois, et il nous disait, il s'est magnifiquement converti, il est sorti de sa gangue, et il est apparu en pleine lumière, la lumière de Dieu, oui, mais, voilà. Par la suite, il est retombé. Par la suite, il est retombé. Quel drame, mes amis, quel drame! Quel drame! C'est très beau, par exemple, de voir un jour de noces. C'est merveilleux, un jour de noces. Ça. Les jeunes mariés se tiennent, ils se regardent, on sent que vraiment, comme dit le Seigneur, ils ne sont plus deux, ils sont un seul être. C'est magnifique. Mais dans les années qui suivent, le foyer, leur foyer, qu'est-il devenu? Est-ce un lieu de paix, un lieu de repos? Est-ce que l'amour y est resté? Là est la question, chers amis. Et je vous dis, n'est-ce pas, le problème, le grand problème dans l'Église, c'est de durer. Ne croyons pas que nous serons sauvés parce que un jour nous nous sommes convertis et nous avons été baptisés. Nous serons sauvés pour avoir été d'abord justifiés et ensuite sanctifiés. La sanctification est la conservation de la justification. Si la sanctification ne fait pas son œuvre, la justification est quelque chose qui tombe. Est quelque chose qui tombe. Qui tombe lamentablement. Alors, chers amis, il faut réfléchir à ces choses. Je ne dis pas que les témoignages de conversion ne soient pas encore à rendre maintenant. Si, faisons-le. Mais essayons aussi de savoir comment des chrétiens ont vécu pendant des années, des dizaines d'années peut-être, en progressant, en restant unis à leur Seigneur, en manifestant dans leur vie la réalité de Christ. Le Seigneur, dans cette lettre, et se désigne comme celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles, comme toujours. Cela est emprunté à l'introduction de l'Apocalypse dans le chapitre 1er. Il a les sept esprits, c'est-à-dire la plénitude de l'esprit, cette plénitude de l'esprit qui déjà est évoquée dans Ésaïe, prophétiquement, dans Ésaïe 11, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Le tronc d'Isaïe, c'est le père de David. Alors David est sorti de ce tronc-là et le Seigneur Jésus sort du même tronc. Et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Voilà l'esprit du Seigneur Jésus-Christ, de notre Maître, qui a les sept esprits, c'est-à-dire la plénitude de l'Esprit de Dieu. Tous les caractères qui composent la plénitude de l'Esprit de Dieu, sont au Seigneur. Et puis, il a aussi les sept étoiles, c'est-à-dire qu'il est celui qui est la tête de l'Église, les étoiles. Nous pouvons revoir ce que le Seigneur a dit au chapitre 1er, verset 20, « Le mystère des sept étoiles que tu as vu dans ma main droite et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. » Alors, il a les sept étoiles, c'est-à-dire que c'est lui qui a, en somme, qui est la source du message pour toutes les églises, les sept églises, c'est-à-dire la totalité de l'Église pendant tout le temps de la dispensation qui lui est réservée. Ensuite, le Seigneur dit, je connais tes œuvres. Rien n'échappe, nous l'avons dit au Seigneur, qui voit tout. Je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Alors, nous voulions considérer d'abord cette réputation qui est faite à l'Église de Sardes d'être vivante. Elle a donc un passé glorieux, elle a été une Église de réveil, elle est née dans un réveil. Et maintenant encore, sans doute, on y célèbre des cultes donnant l'impression de la vie, donnant l'impression, oh mes amis, il y a, et je ne suis pas, c'est pas moi qui le constate seul, voyez par exemple certains écrits de Finet, il vous dira qu'il est entré dans des églises, ça paraissait magnifique, et puis il sentait sur ces églises une chape de ténèbres. Il y a donc là une impression de vie, l'organisation peut être remarquable, les réunions bien ordonnées, mais ce ne sont là que des formes, ce ne sont là que des apparences. Il y a donc dans cette Église une apparence qui subsiste, une apparence de piété, mais il n'y a pas la réalité de la piété. Et là aussi, je voudrais m'arrêter un petit moment et lire d'abord 2 Timothée 3:5. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Paul dit cela pour les derniers jours dans lesquels il voit prophétiquement des temps difficiles. Alors les hommes auront toutes sortes de penchants terribles, l'égoïsme notamment, et l'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Donc vous voyez que ça c'est un défaut tragique, que l'on peut trouver soit chez des personnes, soit dans même une communauté, apparence de piété, mais la réalité de la piété fait défaut. C'est terrible, nous pensons-y, c'est terrible ça. Ça c'est terrible. Et ça peut aussi bien se faire, chers amis, dans un milieu dit évangélique que dans une église traditionnelle. Ben, ne mettons pas tout au compte de l'église traditionnelle. Ce qui nous intéresse, c'est un jugement qui peut nous être utile à nous. Ça ne nous sert à rien, nous, de châtier ce qui peut se produire dans l'église catholique romaine ou ailleurs, ou dans l'église protestante. Ça ne nous avance pas du tout. Hein. Mais ce qui peut nous être utile, c'est de se dire, attention, notre piété pourrait peut-être avoir beaucoup plus d'apparence que de fond et que de réalité. Il y a un autre passage que je voudrais aussi mettre sous vos yeux maintenant, c'est dans le prophète Ézéchiel au chapitre 16. Et vous savez que ce chapitre 16 vise Jérusalem qui est placée sous l'emblème d'une femme prostituée. Jérusalem que Dieu a aimé, a sauvé, et qui l'a paré et qui malheureusement s'est détourné de Dieu. Alors, verset 17. Tu as pris ta magnifique parure d'or et d'argent que je t'avais donnée, et tu en as fait des simulacres d'hommes auxquels tu t'es prostitué. Je rappelle que l'usage de ce mot, prostitué, dans l'Écriture, est bien connu pour correspondre à une signification qui est celle-ci, une infidélité notoire. Une infidélité comme une infidélité d'un époux qui se détourne de l'autre époux. Infidélité. Alors, ici, c'est donc l'infidélité qui est reprochée à Jérusalem, vue sous l'emblème de cette femme. Dieu l'avait parée d'or et d'argent. L'or évoque la divinité, il y avait donc eu une participation à la divinité, par avance sur la nouvelle alliance, et également l'argent qui, nous l'avons montré dans l'étude de l'Exode, c'est très net et tout à fait clair, l'argent signifie la rédemption. L'argent avait été recueilli pour le rachat des personnes. Ainsi donc, voici ce que dit le Seigneur, tu as pris ta magnifique parure d'or et d'argent. Je t'avais revêtu de cette qualité, de cette même sainteté divine. Et puis, qu'as-tu fait de cela? Tu en as fait des simulacres d'hommes. C'est-à-dire que le peuple de Jérusalem est devenu un peuple simulacre. Ces hommes, au début, étaient véritablement enrichis par la grâce de Dieu, délivrés, parés, de la divinité, de la sainteté, et puis ils se sont détournés, ils se sont devenus infidèles, et alors ils apparaissent ensuite comme des simulacres d'hommes. Chers amis, c'est une pensée vraiment terrible que celle de s'arrêter à cela et de se dire, mais ne serions-nous pas nous aussi des simulacres de chrétiens ? Des simulacres d'enfants de Dieu. Je ne veux pas, chers amis, affirmer que vous êtes cela ou que nous sommes cela maintenant, mais je dis qu'il y a un danger à cela. Un danger à devenir des simulacres. Et on viendra, nous allons voir le reste de la lettre, si nous faisions ce qui s'est fait à Sardes, nous deviendrions de véritables simulacres de chrétiens. Pas autre chose que des simulacres. Dans cette église de Sardes, les cœurs sont donc en majorité vides d'amour, de ferveur, d'esprit et de zèle. Tu es mort, ce qui signifie tu n'as pas de participation à la vie qui est en Christ. Tu ne participes pas à la vie. Et si un chrétien ne participe pas à la vie, n'est pas participant de Christ, participant de la vie de Christ, il n'est pas véritablement dans la position du chrétien, de l'enfant de Dieu. Il a pu l'être, il ne l'est pas, si la vie de Christ n'est pas maintenue en lui. Les œuvres de cette Église ne sont pas parfaites, comme dit le Seigneur. Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu, toujours au jugement de Dieu. Pourquoi ne sont-elles pas parfaites? Parce qu'elles ne sont plus recouvertes de la perfection de Christ. La perfection, ça ne s'invente pas. La perfection, comme la dignité, ça se reçoit de Dieu. Et ça se reçoit quand on reçoit et que l'on garde la justice qui vient de la foi seulement, l'aide justice qui vient de la foi seulement, une foi qui se maintient, si nous avons la robe des justices, alors oui, nous avons le vêtement blanc, oui, les œuvres que nous faisons sont des œuvres revêtues de perfection. Alors, il faut faire là une différence, voyez-vous, entre la vie chrétienne, on parle souvent de la vie chrétienne, et de la vie en Christ. Il faudrait que la vie chrétienne fût toujours une vie en Christ. Mais malheureusement, on arrive à dissocier ces deux expressions et ce à quoi elles correspondent. Vie chrétienne, bien sûr, on a une certaine vie chrétienne, mais pas toujours authentiquement la vie en Christ. Et pourtant, il faudrait que les deux choses coïncident, soient ensemble. La lutte contre le péché et la vision de la sanctification ont disparu à Sardes. La conduite privée des membres tend à se rapprocher de celle des païens. Les forces que cette église possédait à ses débuts se sont éteintes et l'on est entré, peut-être assez vite ou peu progressivement, dans une agonie spirituelle que les apparences masquent, mais pas pour Dieu. Au regard du Seigneur, en effet, c'est la mort. La souffrance pour les âmes y est inconnue. Tout est discours, théorie, habitude, exaltation. Il y a de l'enthousiasme, mais un enthousiasme provoqué, et je pense à notre époque, un enthousiasme provoqué peut-être par une musique envahissante et une musique aux accents empruntés à celle du monde, avec le même bruit, le même tintamarre, des baffles de 200-260 watts et plus. Hein? Si vous aviez vu les baffles qui étaient à la fête de l'Évangile à Nîmes, mes amis, il y en avait de chaque côté de la Seine une montagne de ces grandes boîtes noires. On les fait noires. On a raison peut-être de les faire noires. On a sans doute raison. Et alors, cette fête de l'Évangile, m'a, je vous assure, dans les arènes de Nîmes, m'a traumatisé. Jamais je n'aurais pu penser que dans un milieu dit évangélique, et alors que certains messages étaient donnés et qui avaient leur bien fondé et leur utilité, eh bien, qu'on en vienne aux extravagances de cette musique. On ne peut plus rythmer. Chers amis, je vous assure que j'ai vu sur la scène des hommes, des femmes, des guignols absolument, se dandelinant, c'était la chair, on nous proposait la chair, et rien, pas un liard de l'esprit. Alors, tout de même, ces choses-là sont révoltantes pour une conscience chrétienne. Ah oui, on peut chercher l'enthousiasme, aimer l'enthousiasme, et remplacer la foi authentique par de l'enthousiasme. Et puis, dans cette église, on peut dire que, sans doute, il se passait ce que Paul dénonce dans les Philippiens, donc dans certains milieux de l'Église primitive, eh bien, certains cherchaient leur intérêt. Vous voyez, dans les Philippiens, chapitre 2, et verset 21, « Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. » Leurs propres intérêts et non pas ceux de Jésus-Christ. Mais c'est tragique aussi, cette affaire-là. L'église de Sardes, chose qui est à noter, n'est pas du tout persécutée. Oh, ce n'est pas Smyrne. Elle n'est pas persécutée. Elle jouit d'une paix, d'une tranquillité dans son cadre de païen, là, dans ses ruines. Elle est bien, bien tranquille. Le diable ne la dérange pas. Et le diable prend bien garde de ne rien toucher au bon ordre qui règne dans cette église. Elle n'a pas de véritable semence à répandre. Rien ne pousse autour d'elle. Elle est morte, comme la mère morte. Rien ne pousse autour d'elle. C'est le pire état auquel puisse parvenir une église locale. À un tel état, il faut, bien sûr, préférer les combats, les épreuves, à condition que par la foi elle soit surmontée, mieux vaut l'humiliation, mieux vaut la repentance et les pleurs avec leurs effets de retour à Dieu qu'une telle situation de tranquillité et de fausse paix. À quoi sert la réputation d'être vivant si l'on est vu comme étant dans la mort par celui qui sonde les cœurs et les reins? C'est une chose infiniment redoutable de penser qu'il peut y avoir des chrétiens qui sont de faux vivants. Il y a bien dans l'Écriture des faux prophètes, des faux docteurs, des gens qui marchent en ennemis de la croix, mais de penser que, en dehors de ces excès, nous regardons ça comme des excès, les faux prophètes, les faux docteurs, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui touche en somme à l'esprit de l'Antichrist, mais dire que dans l'Église il peut y avoir des chrétiens qui sont de faux vivants, eh bien Jésus, vous voyez ici dans cette lettre, en trouve déjà avant la clôture du premier siècle, avant la fin du premier siècle. Et le Seigneur de dire au verset 2, « Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. » Ah, « Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. » Il y a donc un reste. Il y a trois choses, en somme, dans cette église de Sardes. Il y a ceux qui sont véritablement, alors, couchés dans la mort spirituelle. Ça, il y en a, puisque « sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir », c'est-à-dire une fraction. Il y a encore une fraction, il y a une fraction de membres qui sont prêts de mourir, mais et par conséquent, il y en a qui sont déjà morts. Il y en a donc qui sont morts, il y a une fraction de gens qui sont tout à fait morts, il y a un reste, c'est-à-dire le mot « reste » dans l'Écriture indique toujours une fraction. Il y a une autre fraction qui est près de mourir, près de mourir, et à celle-là Jésus s'adresse, et puis il y a une troisième fraction, celle qu'on trouve au verset 5, celui qui vaincra, au verset 4, « Cependant tu as à Sardes quelques hommes, oh, ils ne sont pas nombreux, quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. » Il y a donc trois fractions. Les morts, ceux qui sont en quelque sorte attirés par la puissance de cette mort, par ce processus de mort. Et puis, il y a alors là les tout à fait fidèles, ceux qui n'ont pas bougé, ceux qui restent vraiment là exempts des souillures, et déjà le Seigneur les voit revêtus de vêtements blancs. Trois fractions. Le reste qui est prêt de mourir, ce sont donc des gens sur lesquels le climat de la principale fraction de ceux qui sont morts, ce climat agit sur eux. Ce sont des gens qui sont donc déjà un peu comme happés par le processus engagé vers la mort. processus de mort. La mort s'étend un peu sur eux, ils cèdent petit à petit du terrain, ils se laissent prendre, ils voudraient résister, mais ils ne résistent pas comme il faut, et ils sont prêts de mourir. Alors, à cela, le Seigneur s'adresse, « Sois vigilant et affermi le reste qui est prêt de mourir. » Et nous pouvons dire ceci, c'est que, cependant, le Seigneur ne renie pas cette Église, ne la rejette pas. Il ne la rejette pas. Voilà quelque chose, n'est-ce pas, un autre aspect que nous présente cette lettre, c'est que le Seigneur lui parle. Parce que s'il s'agissait de tout rejeter, bien, ce serait très simple, il n'y aurait pas de lettre du tout, c'est pas la peine. Du moment qu'il y a une lettre, du moment qu'il y a une parole de Dieu, une adresse de Dieu, c'est que Dieu veut encore sauver. Il veut encore reprendre. Il veut encore relever. Ah, chers amis, c'est là, n'est-ce pas, que nous voyons la grande mansuétude du Seigneur. Et cela nous fait penser à l'intercession d'Abraham en faveur de Sodome dans le chapitre 18 de la Genèse. Vous savez, cet homme qui intercède pour Sodome et qui commence à voir une cinquantaine de justes, aide pour Sodome et qui commence à voir une cinquantaine de justes, il se dit avec 50 tout de même, ça. C'est important, c'est un noyau important. Seigneur, mais détruiras-tu cette ville s'il y a 50 justes? Non. À cause de ces 50 justes, je ne détruirai pas. Mais alors, Abraham descend petit à petit, n'est-ce pas? Et puis, il arrive finalement à 10. En prenant des précautions, d'ailleurs, oratoires. Seigneur, je ne parlerai plus qu'une seule fois. Seigneur, Seigneur. Seigneur, accepte encore que je te dise cela. S'il y avait 10 justes, Seigneur, détruirais-tu cette ville? S'il y a 10 justes, à cause de ces 10 justes, je ne détruirai pas cette ville. Mais malheureusement, les 10 justes n'y étaient pas. Ils n'y étaient pas. Alors, vous voyez, n'est-ce pas, la mansuétude du Seigneur. Elle est, en somme, parallèle à celle que nous découvrons dans ce passage de la Genèse, une mansuétude. Il y a dans l'Église, s'il y a dans l'Église quelques justes, c'est-à-dire des hommes qui sont dignes de marcher en vêtements blancs avec le Seigneur, eh bien, le Seigneur ne détruit pas l'Église. Car tout de même, il peut la détruire, et pour la détruire, que peut-il faire? Eh bien, il enlève le chandelier, tout simplement. Il retire le chandelier. Et s'il n'y a plus de chandelier, nous l'avons vu cela, n'est-ce pas, dans la lettre à Éphèse, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes, le Seigneur, en ôtant le chandelier, supprime l'Église. Mais là, il ne fait pas cette menace. Ce qu'il veut encore, c'est que cette Église se rétablisse. À partir de ce reste et des hommes qui sont dignes de marcher en vêtements blancs, une reconstruction est possible. Les morts, ça, les morts, ceux qui sont vraiment morts, nous avons vu dans la lettre précédente à Thyatire qu'il y avait là aussi trois fractions et qu'il y a une fraction qui est considérée comme perdue, comme perdue. Je ferai mourir de mort ses enfants. Ses adeptes, ceux qui sont vraiment liés avec la prophétesse, eh bien, ils suivront le sort de la prophétesse. Mais là, il y a une possibilité de reconstruction. Alors, le Seigneur va, par sa parole, et sa parole est accompagnée, ne l'oublions pas, d'une puissance, d'une force. Toute parole de Dieu est accompagnée d'une force, si bien que quand laissons de côté quelque chose de la parole de Dieu, nous repoussons la force de Dieu. Nous laissons de côté la puissance de Dieu. À partir donc de ce reste, une reconstruction est possible, seulement ce reste ne va pas lui-même entreprendre de briser l'Église, où les hommes qui sont dignes de marcher avec le Seigneur en vêtements blancs ne vont pas briser l'Église. Il faudra que ces hommes se ressaisissent et qu'ils prient. Au verset 3, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Je viendrai comme un voleur, c'est-à-dire, ça c'est l'évocation du retour pour l'Église, du retour du Seigneur. Alors, je viendrai comme un voleur prendre ceux qui sont prêts, et puis toi tu ne sauras pas, autrement dit, tu resteras là. Tu resteras sur la terre. Jésus, ne voulant pas abandonner cette Église, ne veut pas, certes, que la mort ait le dernier mot. Un réveil est possible, mais ce réveil, maintenant, ne dépend plus du Seigneur. Il dépend de l'homme. Vous voyez, n'est-ce pas? Il dépend de l'homme. Si tu ne veilles pas, je viendrai. Mais toi, sois vigilant, affermis le reste, rappelle-toi comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Alors maintenant, voilà, ta responsabilité est dans ta main. Voilà ta responsabilité. À toi maintenant de te manifester. Ne va pas toujours dire, « Ah, mais moi j'attends tout du Seigneur, c'est le Seigneur qui fera. » Nous sommes, vous savez, quelquefois un peu léger dans nos paroles ou nos pensées, nous avons tendance quelquefois à dire « Ah, mais le Seigneur va arranger tout ça, le Seigneur est bon. » Mais il y a des moments où le Seigneur, n'est-ce pas, nous dit « Attention, c'est à toi de jouer. C'est à toi, c'est ta part maintenant, c'est ta part, c'est ta responsabilité. Moi, je fais, sois tranquille, je te donne des assurances. » Je fais, Dieu, lui, ne se renie jamais. Il fait sa part. Si tu es infidèle, c'est toi. Mais ce n'est pas Dieu. Dieu, lui, n'est jamais infidèle. Et il renouvelle ses appels, ses exhortations. Maintenant, c'est à toi. C'est à toi de répondre. C'est à toi de faire. Tu as ta responsabilité. Alors, il ne faut pas toujours dire, n'est-ce pas, « Oh oui, mais Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela. » Si l'homme ne réagit pas, si l'Église, si les chrétiens ne réagissent pas, ne viennent pas, ne consentent pas à se repentir, par exemple, à affermir ce qui est prêt de mourir, s'ils ne gardent pas, ne se décident pas à garder la parole et à supprimer tout ce qui est mauvais dans les œuvres, pour reprendre les œuvres bonnes, eh bien, le Seigneur, bien sûr, laissera la mort faire son œuvre. Le Seigneur Jésus exhorte à la vigilance, car c'est bien ce qui a manqué dans cette Église. L'Église était partie d'une véritable consécration, mais elle n'avait pas veillé. Alors, le sommeil l'avait saisi, et avec le sommeil, l'oubli. Et avec l'oubli, la réapparition de pensées humaines, de pensées tirées du monde, voyez-vous, la réapparition des raisonnements, voilà ce qui se produit, n'est-ce pas, en temps de sommeil, si on ne veille pas, si le sommeil agit. Mais le Seigneur dit à cette Église, compare l'état de ton cœur avec le premier. Vois maintenant l'état de ton cœur et rappelle-toi ce qu'il était ton cœur tout au début de ton expérience. L'évangile que tu avais reçu t'avait retiré de la mort et maintenant tu es en train d'y retomber. Tu es en train de tomber dans la mort. Attention, tu es prêt de mourir. Reviens à l'évangile qui est la puissance de Dieu, mais pour que cette puissance agisse, il faut la foi. Puissance de Dieu pour ceux qui croient. Pour ceux qui croient, qui mettent la foi à son niveau. Reviens à l'Évangile. Ma venue te surprendra, tu ne pourras pas la supporter, et cela nous fait penser à la première épître de Jean, chapitre 2, verset 28, chapitre 2, verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, en Christ, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Alors là, ça mérite méditation. Il pourra y avoir, il y a un risque d'être confus et éloigné du Seigneur. Et si l'on est confus et éloigné du Seigneur au moment où il vient comme un voleur, c'est-à-dire au moment où on ne s'y attend pas, tu n'y penseras pas, même a dit le Seigneur. Même à ceux qui seront vigilants, le Seigneur a dit, je viendrai au moment où tu n'y penseras pas. Tu attendras, bon, tu seras dans l'attente, c'est vrai, mais je viendrai, moi, de tout sens, tu seras surpris. Les vierges sages sont également surprises, autant surprises que les folles. Seulement la différence entre les deux catégories, c'est que les sages ont été vigilants et qu'elles ont pris la précaution de se munir d'un vase d'huile. Alors, être confus et éloigné de lui. Voyez là, Jean fait une différence entre ceux qui ont l'assurance, en grec la parésia, et ceux qui, au contraire, sont confus et éloignés du Seigneur. Alors, à ce moment-là, eh bien, le Seigneur vient, et puis, ces chrétiens-là l'apprendront après. Le Seigneur est venu, il y en a qui sont partis. Et nous, on est restés. Moi, je ne vois pas autre chose, n'est-ce pas, c'est la situation que le Seigneur met devant nous. Et puis, au verset 4, « Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi, en vêtements blancs. » Ces gens qui n'ont pas souillé sont donc revêtus de la justice, de la robe de justice qui s'obtient par la foi. Ils ont gardé la parole de Dieu qui les avait purifiés, qui les avait justifiés, et ils ont gardé cela par la seule voie possible, celle de la sanctification. Et ils sont restés purs. Nous voyons donc, chers amis, attention, nous voyons qu'il est possible de ne pas souiller ses vêtements si l'on garde et si l'on triomphe dans les luttes et les épreuves. Il est possible, puisque là, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus constate qu'il y a à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Alors donc c'est possible à nous, c'est possible, chers amis, c'est pas l'impossible que le Seigneur nous demande, c'est possible. Et souillé, qu'est-ce que ça veut dire, souillé? Eh bien, ils n'ont pas souillé. Ceux qui souillent leurs vêtements sont ceux qui suppriment l'état de sainteté et de justice. Ils altèrent sur eux, en eux, l'état de sainteté et de justice. Par exemple, par une acceptation d'éléments discordants, par des altérations acceptées à la parole de Dieu. Ils acceptent qu'on retire un petit quelque chose, par une interprétation subtile, par exemple. Ils acceptent ça, alors ils souillent, parce que la souillure c'est d'abord dans l'esprit, dans le cœur, mes amis. Ne voyez pas la souillure morale seulement. Bon, des gens pourraient être peut-être assez exempts de souillure morale et être souillés dans leur esprit.
Un défaut de mise en pratique, une altération, comme Paul le souligne dans la deuxième aux Corinthiens, Ça a pu être aussi un retour à l'esprit du monde, une participation, une petite participation aux œuvres que l'on voit dans le monde et que l'on juge n'être pas le péché, c'est pas le péché ça. Alors, participation acceptée aux œuvres du monde. Je voudrais là-dessus insister à ce sujet sur les mots que le Seigneur emploie, et qui est particulièrement le mot « garde ». Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Garde, garde. Eh bien ça, cette injonction est chère au Seigneur Jésus. Garde. Garder, c'est garder la parole. C'est la conserver pour ne pas l'oublier, pour la respecter, pour ne pas la violer, pour ne pas la dénaturer en quoi que ce soit, pour obéir à cette parole. La parole de Dieu nous est donnée pour être obéie entièrement. Vous avez été appelés à être saints, c'est-à-dire appelés à l'obéissance. Et, chers amis, qui sont mes frères, mes sœurs, déclare le Seigneur Jésus, ceux qui accomplissent la volonté de mon Père. Il n'y a pas autre chose que cela, chers amis. Et si on se permet d'apporter volontairement, on peut désobéir par faiblesse. Alors là, on se repent et le Seigneur répare. Mais si délibérément on décide dans son cœur d'obéir, de supprimer un petit quelque chose à la parole de Dieu, alors là c'est une atteinte. Une atteinte, c'est une révolte. C'est un esprit de rébellion, cela. Alors la parole de Dieu n'est faite pour être obéie et la souillure consiste à lui désobéir. C'est en somme tenir la parole de Dieu pour autre chose que ce qu'elle est, c'est-à-dire la vérité. Mais ceux qui ne souillent pas, eux, ont tenu la parole de Dieu pour une réalité inébranlable, pour une grandeur indépendante de l'homme. C'est indépendant de moi si la parole me dit « il faut ceci, il faut que les... » Par exemple, les sœurs soient couvertes pour la prière. Eh bien, c'est une grandeur indépendante de nous. Il n'y a pas à toucher à ça, il n'y a pas à discuter, il n'y a pas un mot à dire. Pas un mot à dire. Lorsque Josué s'entend dire par le Seigneur, « Mets-toi là, campe-toi là, et prends le javelot que tu as dans la main, pointe-le sur la ville d'Aï, puis ne bouge pas, reste là. » Il est resté là pendant peut-être 2 ou 3 heures, sans bouger. Eh bien, il a pris la parole de Dieu pour une grandeur qui dépasse l'homme. Et c'est alors que la victoire a été remportée. Mais, chers amis, si aujourd'hui, encore dans notre temps, nous sommes dans le temps de la fin et dans le temps d'une dégénérescence de la foi, il faut bien le dire, hélas. Eh bien, si on se permet de toucher à tant soit peu de la parole de Dieu, on porte atteinte à la souveraineté de Dieu, on porte atteinte à cette grandeur qu'est la parole de Dieu, à cette puissance qu'elle porte en elle, et l'on est tout simplement Adam de la chute, Adam de la rébellion. Ne pas garder la parole de Dieu, c'est se livrer à la mort. Et il ne s'agit pas de dire, mais moi... c'est des petits détails, c'est des petites choses tout à fait périphériques, tout à fait secondaires, mais l'essentiel, je le prends. Ça n'est pas vrai. La parole de Dieu est un tout qu'on ne peut pas modifier. Quand le peuple d'Israël devait quitter l'Égypte, dans cette nuit mémorable, il lui est dit de manger l'agneau et de le manger tout entier, de n'en rien laisser. On ne peut pas prétendre non plus moderniser la parole de Dieu, ni l'actualiser. On entend ces choses révoltantes, c'est révoltant aujourd'hui. Ah, on prétend moderniser. Alors voilà l'homme avec son autorité, l'homme avec son orgueil de toujours, qui prétend retoucher la parole de Dieu. On va la moderniser. Prenez, faut l'adapter. Autrefois, c'était ça. Et dire que nous acceptons des prédications dans ce sens-là, des prédications venant de l'extérieur. On accepte cela. Ah, chers amis, moi, je vous assure que j'ai lu des comptes rendus de prédications de personnes venues qu'on a acceptées dans nos églises. Eh bien, je vous assure, je suis révolté. Révolté. Absolument révolté, quand il nous est dit, non, autrefois c'était comme ça, du temps de l'apôtre Paul, c'était comme ça. On a même dit ceci, concernant la participation des femmes au ministère. Autrefois, les femmes ne connaissaient rien, elles n'étaient pas instruites. Bon, à ce moment-là, on ne pouvait pas les faire participer au ministère. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait différent, tout à fait différent. L'apôtre Paul dit que la femme ne participe pas à l'enseignement, hein, pour qu'elle ne prenne pas autorité. Mais oui, mais c'était bon parce qu'elle n'était pas instruite. Mais aujourd'hui, comme les femmes sont très instruites, elles vont partout, n'est-ce pas, dans toutes les écoles et les universités. Mais alors maintenant, on peut leur donner cela, n'est-ce pas? Alors changeons la parole de Dieu, changeons la Bible, c'est une hérésie, c'est un mal. C'est quelque chose, chers amis, qui est actuellement sous le coup de la colère de Dieu. Ah ça, je ne ménage pas mes termes, la colère de Dieu est en train de s'allumer contre de telles choses. On ne peut pas moderniser la parole de Dieu, on ne peut pas l'actualiser, on ne peut pas prétendre lui découvrir un nouveau sens, une nouvelle portée. L'esprit, consultons l'esprit de Dieu. Et la parole de Dieu s'ouvre, la parole de Dieu s'éclaire. Et elle a un sens, une portée universelle. Il est écrit que ta parole est éternelle. Si elle est éternelle, elle est bien au-dessus de toutes les fluctuations des temps, de toutes les évolutions de civilisation ou de culture. Elle est au-dessus de tout cela, parce qu'elle est éternelle. Elle est une grandeur indépendante de l'homme, de la terre. Une grandeur merveilleuse. Et elle est une source de vie. Elle seule est une source de vie. Amen.